Matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, ce soir encore, se penche sur notre besoin d'histoire. L'écrivain Gauze nous disait hier, mardi, que c'était affaire de transmission. Or justement, nous avons le plaisir de recevoir un historien de l'enseignement de l'histoire. Bonsoir Benoît Falaise.
Bonsoir Patrick Boucheron.
On le dit, l'histoire serait une passion française. Et l'un des traits de notre génie national serait de nous disputer sans cesse sur la manière de l'enseigner. On le dit, mais est-ce vrai? Pour le savoir, on ne peut pas se contenter de survoler des tables de matière de manuel ou d'écouter le bruit que fait le débat sur l'école. Non, pour le savoir, il faut écouter, il faut enquêter. Il faut comparer, il faut sortir de chez soi. C'est ce que vous faites, Benoît Falaise. Vous êtes historien de l'enseignement de l'histoire. C'est ce que vous avez voulu être ou vous avez d'abord voulu être historien tout court?
Je ne sais pas si j'ai voulu être historien de l'école ou historien de la transmission de l'histoire ou historien tout court. Je crois que le hasard de mes études ont fait que j'ai rencontré des personnalités et j'ai la chance de venir d'une université à Tours, université François Rabelais, où il y avait à l'époque Alain Corbin, Monique Bourrin, je pourrais les citer tous, hein, oui. Georges Mirou, Jeannine Sels, Gérald Schex, donc des personnalités très fortes et qui m'ont convaincu, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, qui m'ont convaincu que l'histoire était ma voie. C'était peut-être la seule discipline aussi à l'école où j'arrivais à avoir la moyenne.
Vous aviez d'autres idées au départ? Vous allez à Budapest, vous envisagez une thèse sur les bibliothèques aristocratiques des élites hongroises au XVIIIe siècle avec Roger Chartier, c'est ça?
Pour être tout à fait franc, je voulais être journaliste sportif à l'origine.
Ah voilà, ça c'est plus important.
Bien sûr, ça reste d'ailleurs une passion. Mais effectivement, après mes études d'histoire, je suis parti dans le cadre du service national. C'était le 1er septembre 1988. Et donc j'ai assisté en direct à l'avènement de la démocratie à Budapest. Et j'étais parti en prenant soin d'aller voir Roger Chartier, en lui disant est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet de thèse possible. Et Roger Chartier m'avait dit, bien sûr, il faudrait contacter de ma part Habela Jeva, qui était la grande amie de Fernand Braudel. Elle vous trouvera certainement quelque chose avec moi, on travaillera ensemble. Et on avait ce projet, effectivement, de comparer les bibliothèques protestantes et catholiques, disons 18e jusqu'à 1848. C'est-à-dire, l'idée était que lit-on en Hongrie dans les bibliothèques aristocratiques? Et évidemment, il n'y avait pas de surprise, on lisait beaucoup de français.
On reparlera de ça, évidemment, de la Hongrie, mais on reparlera aussi de ce besoin de comparer. Et de comparer, au fond, pour se calmer, j'allais dire, se calmer par rapport à ce débat sur l'école. Bon, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale depuis 2017. Oui. Vous êtes un pédagogue, vous avez enseigné à l'IFM.
C'est comme ça que je me définis.
Un pédagogue, donc un pédagogue, ça répète inlassablement. Mais franchement, Benoît Falaise, vous n'en avez pas marre, des fois, de répéter toujours à des gens qui ne veulent pas comprendre, je veux dire les adultes?
C'est une des questions. Et c'est vrai que parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ces gens, sans aucun mépris d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas très intéressant. Et en fait, on est obligé de répéter sans cesse des évidences qui n'en sont pas pour les gens. Le sens commun est tel qu'il faut, sur l'école, toujours bâtir une réflexion critique et intellectuelle. Et surtout, adossée à l'histoire. Il y a un manque d'historicité quand on parle d'école. L'école est une passion française, pour le coup.
Oui, on va essayer de comprendre pourquoi.
L'école est une passion française et c'est tellement lié à la Révolution française. C'est la nation qui fait l'école, avant que ça soit l'école qui fasse la nation. Et il y a quelque chose là qui s'organise et qui fait que on a tendance à considérer l'école de manière intemporelle. C'est-à-dire, on parle de l'école aujourd'hui comme si c'était celle de la Troisième République, d'où les faux débats, les fausses nostalgies qui s'installent dans le débat public.
Alors justement, vous avez pris la question en historien. Et pour votre thèse, vous changez de sujet à un moment.
D'autant qu'avant la Hongrie et les bibliothèques aristocratiques, j'en avais un avec Jacques Sapir, Bernard Chavance, c'était sur et éventuellement Vladimir Brailovitch, c'était la question de la soviétologie et des syndicats libres en Union soviétique sous Brejnev. Donc vous voyez, c'était quand même l'Europe, toujours, et l'Europe centrale en particulier. Et puis j'ai découvert un métier en fait en rentrant de Budapest. J'ai passé les concours en me disant qu'est-ce que je peux faire. J'ai bien compris que je ne serais jamais journaliste sportif, c'était inacceptable. accessible pour moi. Et je suis devenu professeur d'histoire. Et là, j'ai eu, pardon de le dire en ces termes, une révélation. C'est-à-dire que, sitôt en classe, avec des grands gaillards plus grands que moi, de seconde, de technique, système automatisé, qui avaient un rapport à l'histoire assez distant, il faut bien le dire, j'ai adoré tout de suite.
Tout de suite enseigner. Vous avez adoré enseigner.
Tout de suite. Donc, forcément, j'ai laissé au grand dame de Roger Chartier, laissé un peu tomber la thèse. C'est-à-dire que ça ne me paraissait plus du tout essentiel. J'avais des élèves en chair et en os devant moi. J'avais un rapport avec le monde social que j'attendais au fond. On était en plus dans une période, je le dis parce que c'est pas sans importance, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. Oui. Et la question de Sarajevo et de Mostar était dans toutes nos têtes et on était préoccupés par le politique et par le aujourd'hui. Et partir dans une thèse sur les bibliothèques, c'était sans doute trop contraignant.
Alors, une vocation d'historien qui se construit sur le deuil du journalisme sportif et une passion d'enseigner. Pourquoi ? Pour transmettre, pour éveiller, pour aiguiser l'esprit critique. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Qu'est-ce que vous aimez voir s'allumer dans l'œil de vos élèves ?
Merci Patrick Boucheron parce que vous m'obligez là à une sorte d'égo-analyse, hein, comme disait Pierre Bourdieu. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je le dis très sincèrement. Je crois là les mots qui me sont venus immédiatement en vous écoutant, c'est dire les choses, nommer les choses, mettre des mots sur les plaies aussi. Il y a un sentiment chez moi très fort de raconter l'histoire telle qu'elle est. Avec le souci que j'ai toujours eu, d'ailleurs, hein, d'adosser mon propos aux derniers travaux historiques. C'est-à-dire, j'ai toujours lu les dernières thèses. Je me suis toujours astreint à suivre l'actualité. Mais je suis pas le seul. C'est pas du tout une prétention de ma part. C'est simplement quand on fait son métier, on essaye de le faire aussi bien que possible. Et très vite m'est venue l'idée qu'il fallait que peut-être je forme les jeunes enseignants à partir dans cette direction-là de la transmission, du bonheur de partager son savoir. Le savoir pour le savoir, c'est comme l'antiquaire pour Marc Bloch et Pirenne, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est une beauté inutile.
C'est une beauté qui traîne et qui prend la poussière. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de raconter. Et très vite, effectivement, je me suis dirigé vers la formation des maîtres, laissant de côté toujours la thèse. Vous voyez, donc je suis parti dans une nouvelle passion qui était la formation, la recherche en éducation. Et finalement, la thèse m'a rattrapé. Alors, elle m'a rattrapé.
C'est une réconciliation, en fait, puisque c'est une recherche sur l'histoire, de l'enseignement de l'histoire.
J'ai eu la chance d'avoir des parrains aussi et des marraines, hein. Je pourrais tous et toutes les citer, mais qui me disaient à peu près chaque rentrée scolaire, mais quand fais-tu ta thèse ? Donc, à un moment donné, je me suis dit finalement, quel est le plus simple pour moi ? Et ça a été de partir sur l'enseignement de l'histoire, parce que, paradoxalement, alors même que ça occupe les débats publics de façon outrancière peut-être, il y a finalement très peu de travaux sérieux sur la question.
Bah, alors on en a un justement sous les yeux, pardon, c'est pas très radiophonique ce que je dis. J'en ai un sous les yeux, c'est l'histoire à l'école élémentaire depuis 1945, c'est paru en 2017, c'est ça, aux presses universitaires de Rennes. C'est la version abrégée de votre thèse, c'est un travail d'histoire à partir d'un matériau qui est patiemment accumulé. Des copies, des devoirs d'écoliers, mais aussi du matériau pédagogique, pas seulement des instructions, mais au fond la pratique de l'enseignement, c'est bien ça ?
Oui, ce qui est très très facile, c'est de gloser sur les programmes scolaires, de les comparer et les manuels scolaires, parce qu'ils sont assez facilement à disposition. Là où c'est plus difficile, c'est d'aller voir au fond les pratiques réelles. Les enquêtes sur l'enseignement de l'histoire datent des années, je peux évoquer celles qui ont eu lieu à la fin des années 50, début 60, mais quand même elles sont très rares, très circonscrites, c'est disons les années 80-90. C'est là où on commence à faire des enquêtes dans les classes, avec la didactique de l'histoire, notamment dès les années 70 pour être précis. Mais comment faire pour avant ? Hein, pas de vidéo, pas d'enregistrement. Donc comment réfléchir à ça ? Alors il y a bien sûr les travaux d'élèves, mais il y a aussi les préparations des maîtres. Il y a aussi les rapports d'inspection départementaux. Oui. Parce que là, on a une plongée dans les classes qui est absolument magnifique. Et puis l'ensemble des revues pédagogiques du primaire qui sont d'une richesse absolument formidable, qui sont même au-delà même de la question strictement scolaire. On peut faire une histoire politique et une histoire coloniale aussi dans les revues scolaires. scolaire, parce qu'il y a quelque chose là qui se dit de la société de son temps. Et en croisant tout ça, en faisant l'historien, en fait, tout bêtement, en croisant, on arrive à reconstituer à peu près ce que pouvait être une classe en 1946-47 ou un peu plus tard.
Et là, on est au plus près des pratiques. Et on peut d'ailleurs se demander d'où vient cette croyance idéologique que ces pratiques seraient au fond la mise en application de lignes de programme, comme si nous étions au fond des ordinateurs qui se programment, alors que tout se fabrique en classe, justement.
Oui, tout se fabrique en classe, et c'est vrai que cette idée que s'il y a un programme, il y a un enseignement qui correspond, c'est une idée fausse, et ça a toujours été une idée fausse. Les travaux...
Mais tenace, pourtant.
Très tenace. Les travaux qui sont juste avant la Seconde Guerre mondiale, je pense aux travaux d'Olivier Loub, puis aussi de Brigitte Dancel, qui, pareil, va dans les rapports d'inspection jusqu'à 1914, sont des travaux qui montrent l'écart qu'il y a entre le prescrit et le réalisé, et la liberté que prennent les enseignants, ou jusqu'au point d'ailleurs sans doute parfois de ne pas faire leçon d'histoire. Alors à l'école élémentaire particulièrement, puisque l'histoire a toujours eu ce statut absolument extraordinaire que ça semble trop difficile à faire. Et les inspecteurs, et c'est ça aussi qui est intéressant, quand on historicise en fait le débat sur l'enseignement de l'histoire, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'on s'interroge sur il est difficile d'enseigner l'histoire à tel endroit, c'est qu'en fait si on historicise, on se rend bien compte que dès 1890, dès 1910, on a des rapports d'inspection qui disent « Mon Dieu, il y a des problèmes ».
C'est difficile, il y a des problèmes. Voilà. Mais en même temps, les gens s'arrangent, en même temps, il y a des initiatives, il y a des inventions,
bien sûr.
Une énergie sociale en fait.
Et puis, il y a quand même le sentiment de vouloir coller un petit peu au programme, donc on fait ce qu'on peut. On introduit très tôt, là encore, c'est une chose très importante, contrairement à l'idée d'un roman national qui se serait imposé à des populations à la fois soit béates, soit soumises. On a un enseignement de l'histoire qui repose beaucoup à l'école élémentaire sur l'histoire locale.
Par exemple, justement, à vous lire, Benoît Falaise, excusez-moi de vous couper, mais c'est frappant parce que à vous lire, on ne sait pas si on doit se désespérer ou, au fond, reprendre courage. Se désespérer parce que les discours politiques sont si loin des réalités, et reprendre courage parce que ces réalités sont moins désespérantes que les discours politiques. Mais, par exemple, on s'écharpe sur l'idée de savoir si c'est bien ou pas bien de continuer à dire « nos ancêtres les Gaulois ». Mais vous montrez dans ce livre, « L'histoire à l'école élémentaire depuis 1945 », que là où vous enquêtez, et notamment en situation coloniale, on n'a jamais enseigné nos ancêtres les Gaulois.
Merci Patrick Boucheron de me le faire dire, parce que non seulement on ne l'enseigne pas, mais en plus de ça, on s'en moque. Le gouverneur Hardy s'en moque dès les années 10, de 1910 pour l'AOF. Les instituteurs en 45 qui veulent développer dans l'esprit de Constantine, du plan de Constantine, quelque chose qui ressemblerait à une vraie unification du territoire français, colonies comprises. Il y a, et donc, d'entraîner l'Algérie et la Tunisie et le Maroc vers une massification scolaire. Ils définissent quoi ? Ils définissent un enseignement méditerranéen, absolument magnifique d'ailleurs.
Continuité du 19e siècle qui cherche l'appropriation des petites patries, pour parler comme Jean-François Chanet qui préface votre livre.
Absolument, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement cette volonté-là de parler du local, de ce qui apparaît comme folklorique mais qui en fait est une réalité vivante, et on voit comment un programme est défini autour de, d'ailleurs de manière assez intéressante, autour de l'Antiquité romaine. Il y a là, autour du pourtour méditerranéen, une culture qui nous unit, une culture de la fraternité, hein, au point que les instituteurs, certains instituteurs vont être des partisans de l'Algérie algérienne, hein, en 1962, et au point même que dans l'école normale d'Alger Bouzaria, des instituteurs jusqu'au directeur d'Alger Bouzaria vont participer à la conception des premiers programmes d'histoire algériens. Donc il y a, vous voyez, une sorte de proximité, mais ce n'est pas nos ancêtres les Gaulois.
Mais à vous lire, ce qui frappe, c'est quand même la ténacité des arguments et l'inertie, au fond, des croyances. Alors, dans les représentations, mais pas seulement, votre livre s'achève aujourd'hui, et puis par, on va en parler d'ailleurs, de la manière dont les enfants disent leur histoire de France. Mais un élève d'un collège dans le Cher dit « Depuis quand la France ?» Réponse, c'est depuis que les Gaulois, les rois et ceux qui font la guerre, que c'est devenu la France.
Oui. Il faut toujours interroger l'imaginaire et les connaissances des élèves. Alors là, vous faites référence à des propos qui sont tenus dans le cadre d'une enquête qu'on a menée sous la direction de Françoise Lantôme et Jocelyn Letourneau, donc Université Québec et Laval et Université Lyon 2, où on interroge les élèves sur le récit de la France qu'ils peuvent faire. Et on a été frappé de voir à quel point la guerre est omniprésente. C'est-à-dire la représentation première des enfants, c'est la guerre. L'histoire, c'est la guerre. Bon, il y a du vrai là-dedans, mais du coup, ça pose toute une série de questions sur comment on enseigne. Pour revenir à votre question, Patrick Boucheron, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que, vous savez, Moshe Lewin, le spécialiste de l'Union soviétique, disait toujours, qu'est-ce qui fait que, contrairement à la sinologie, où les gens travaillent sérieux sur l'Union soviétique, on raconte n'importe quoi, on est dans la caricature. Bah, je pourrais transposer ça sur le monde social français. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que sur les débats de société, où il y a sur des tas de sujets, on travaille avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce qui fait que sur l'école, on n'a pas travaillé avec beaucoup de sérieux? C'est en train de changer, c'est en train de se développer. Et il suffit simplement de faire le travail qui n'est pas le plus évident, c'est-à-dire de passer du temps dans les archives, de confronter les documents, les sources, et de pouvoir recouper. Si on s'en tient au programme, évidemment, on n'aura que des discours convenus, ça certainement.
S'en tenir aux archives, s'en tenir aux enquêtes, être au plus près des pratiques, c'est ce que vous avez voulu aussi, Benoît Falaise, dans le livre, le dernier livre que vous faites paraître aux éditions La Découverte, Territoire vivant de la République, ce que peut l'école réussir au-delà des préjugés. C'est la suite, d'une certaine manière, au sens où vous faites l'inventaire qui n'est ni irénique ni alarmiste, qui se tient justement, je dirais, sur la ligne de crête, fragile, friable, entre ces deux écueils. L'inventaire de ce qui marche malgré tout à l'école. Et vous dites quelque chose qui est très simple dans ce livre, collectif, on va en parler, et très simple et au fond très profond aussi, c'est « mais pourquoi on ne veut pas l'entendre ? Qu'est-ce qu'on a à perdre à dire que tout ne marche pas si mal ?»
C'est notre question. C'est notre question. Je vais vous donner une anecdote. Quand on a commencé à réfléchir à faire ce livre, qui, d'une certaine manière, répond au débat lancinant sur le fait que dans les banlieues, tout ça entre guillemets, on ne peut plus enseigner la Shoah, les concurrences mémorielles, on ne respecte pas la laïcité. Enfin, je pourrais multiplier les phrases. Vous voyez bien les débats qui sont les débats d'aujourd'hui. J'ai posé la question à un jeune collègue astin. Vraiment dans un collège très compliqué, si j'en crois la presse. Et je lui pose la question, naïvement, faussement naïvement peut-être, je lui dis, mais est-ce que tu as des difficultés quand tu enseignes la Shoah? Comment ça se passe? Comment réagissent les élèves? Il m'a fait répéter la question deux fois. Il m'a dit, mais j'ai aucun problème. Et avec son collègue de musique, ils ont fait chanter en yiddish leurs élèves des chansons des camps devant les parents assemblés qui applaudissaient. Et moi, je me suis dit, mais il faut que les journalistes voient ça. Parce que, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a une pédagogie qui permet, en fait, de prendre les élèves et de leur montrer et de les amener à la connaissance, au savoir, au respect de l'histoire, et sans que ça pose le moindre problème. Alors, là, vous posez, Patrick Boucheron, une question difficile. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Il y a quelque chose qui, pour moi, est sidérant. On s'est installé depuis une quinzaine d'années, vous le sentez bien, depuis 2002-2003, dans un discours de déploration sur les banlieues, sur l'intégration, sur des thèmes qui existaient déjà, mais qui ont été posés de manière radicalement différente après notamment le World Trade Center et aussi évidemment après 2015. Donc c'est ça notre crispation française. Or, que disent beaucoup d'enseignants, c'est qu'ils prennent un énorme plaisir et même de l'émotion à faire classe. Parce que justement, il s'y passe des choses, parce que les élèves sont portés d'un milieu social populaire, ils sont portés à avoir un appétit énorme, ils sont en demande d'histoire, vous voyez, ça rejoint exactement le titre de votre émission. C'est-à-dire que il y a une demande d'histoire. Quand les élèves protestent contestent la concurrence mémorielle, oui mais l'Algérie, vous parlez jamais de l'Algérie. Bon. Ce qui d'ailleurs est faux dans l'école française aujourd'hui, on a là une demande, une quête de savoir si l'enseignant est bien formé, s'il a envie de transmettre cette histoire, mais c'est un véritable régal.
Ici, pas d'alarmisme tonitruant, pas de déploration inutile, pas non plus de candeur béate, juste le regard de pédagogue sur des situations scolaires et d'apprentissage dans l'école de la République pour dépasser le fatalisme et rendre compte de leur engagement quotidien, écrivez-vous, Benoît Falaise, dans les territoires vivants de la République, qui ne sont pas seulement une collection de belles histoires, parce que sur ce chapitre, par exemple, enseigner la Shoah, on peut en tirer quelques conclusions. Il y faut de l'interdisciplinarité, oui. Il y faut du témoignage, de l'inventivité et de la participation des élèves.
Oui, et on fait comme si enseigner la Shoah était un sujet facile. Mais je ne connais aucune classe en France, aucun élève adolescent en construction et aucun enseignant pour qui enseigner la Shoah, la déportation de masse, l'exécution, les Einsatzgruppen, pour qui ça soit un sujet facile à aborder. Il y a toujours une part d'émotion et d'autant plus que c'est un sujet relativement récent dans l'histoire de l'école. Donc il y a toujours ce souci que j'ai, mais ça c'est en historien que je raisonne, d'historiciser les choses. On ne peut pas demander en 10 ans à une institution scolaire d'enseigner magnifiquement un sujet aussi sensible que celui-ci, d'autant que il s'est révélé quand même dans les débats publics dans les années 80, alors Paxton d'abord, Paxton-Marus ensuite, et ensuite dans les années 80, à coup de déclarations tonitruantes dans la presse, les médias. Donc c'est pas un sujet simple.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Benoît Falaise, historien de l'enseignement, qui nous disait que pour enseigner, on peut aussi écouter de la musique. Vous nous avez amené quelle musique ?
Anton Webern, hein, de l'école de Vienne. On est à la limite du dodécaphonisme, de la musique sérielle. On est juste au moment du basculement. C'est crépusculaire presque. À la fois, on sent la légèreté d'une valse viennoise et toute la tradition musicale du 19e. Et en même temps, on sent que c'est déjà en train de basculer. Évidemment, nous, historiens, c'est facile. On sent le gouffre derrière. On sent 1914 qui arrive et l'implosion de cet empire. Mais tout l'esprit de la sécession est pour moi majeur. Je vous disais, Patrick Boucheron, que enseigner l'histoire sans musique, c'est se priver d'une partie extraordinaire. J'avais pensé aussi Jean-Sébastien Bach, hein, le rapport entre catholicisme et protestantisme. Là, il y a quelque chose de magnifique à montrer aux élèves, ou alors on pourrait éventuellement, parce que j'aime beaucoup une pièce de Beethoven qui montre son affranchissement au classicisme de son maître, vieux maître Hind, et comment il bascule dans le romantisme. Là, il y a des choses tout à fait saisissantes à faire écouter. Et ce qui est très frappant, c'est que autant les enfants entendent parler d'histoire, autant ils n'entendent pas parler de musique, et encore moins de musique classique.
On ne va pas quitter tout de suite les territoires vivants de la République sans avoir évoqué une histoire que je trouve extraordinaire. Elle nous est racontée par un collègue justement de Stain, du collège Joliot-Curie de Stain, Fabien Pontagnier, qui nous raconte le moment où les archives viennent à lui, hein, puisque les archives nationales s'installent à Pierrefitte-sur-Seine en 2013. Et là, il y a un témoignage formidable, celui-là aussi, il faut le donner à lire, d'un collégien, Cheikh Sidi Bé. On ne peut pas dire que ce soit un bon élève au départ.
Ah bah, c'est même un élève qui est renvoyé régulièrement.
Et voilà ce qu'il dit. Ma rencontre avec les Archives nationales, je la compare un peu avec un coup de foudre. Si on m'avait dit Archives nationales il y a 2 ans de là, j'aurais regardé la personne d'une façon un peu bizarre et lui aurais dit « qu'est-ce que tu me racontes ?» J'avais des idées préconçues. Ce lieu, je l'imaginais comme un vieux bâtiment du XVIe siècle construit en bois, que c'était pour les vieux, que tout était carré, que des gens en costard-cravate. Un jour, mon professeur d'histoire nous a dit que nous allions aller aux Archives nationales dans le cadre du CNRD, le Concours national de résistance de la déportation. Donc ça partait mal. Je n'étais pas content. Mais arriver aux archives, c'était tout le contraire de ce que je pensais. J'ai aperçu un grand bâtiment construit en métal, avec des structures en 3D style futur, donc j'étais choqué.
Oui, il faut rajouter que Cheikh Sidi Bey, qu'on continue à voir, hein, dans le cadre du lancement de ce livre, on a fait une magnifique soirée à Bobigny pour ce livre, Cheikh Sidi Bey est venu témoigner, il veut devenir professeur d'histoire. Il a réintégré le cursus scolaire, il est en seconde.
Il a fait son stage de 3e aux Archives nationales.
Son stage de 3e aux Archives nationales, et il veut devenir professeur d'histoire.
Au début, il avait peur de les toucher, et dit-il, parce que ça avait 100 ans.
Exactement. Et il a rencontré Philippe Joutard. Et la rencontre entre Cheikh et Philippe Joutard a été un grand moment, et Philippe Joutard a adoré. Il faut savoir que ce texte a été écrit par SMS.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est dans la modernité la plus totale, mais en même temps avec le souci de l'histoire, le souci des archives et aussi peut-être le souci de sa propre histoire, puisqu'il a tout de suite essayé de savoir si dans ces archives-là, on pouvait retrouver des choses par rapport à la guerre, notamment des troupes coloniales qui avaient pu être intégrées dans les troupes françaises. Donc on a ce désir d'histoire, je le dis. Alors ce qui est très...
Il passe par les archives, nous allons consacrer une semaine bientôt dans Matière à penser sur les archives.
Ce qui est très important, Patrick Boucheron, c'est on n'a pas mis cet exemple parce que c'était le seul qu'on a trouvé.
Il y en a d'autres.
Mais bien sûr, on aurait pu faire 3 volumes, vous savez. Et depuis que le livre est sorti, je reçois des témoignages de collègues de partout qui me disent « Mais s'il y a un autre volume, je veux en être. » Parce que moi, je vais... Et j'ai même reçu récemment une lettre d'une ancienne élève de 22 ans qui explique, alors qu'elle va se destine à l'avocature, qui explique à quel point, elle qui devait être une rebelle très certainement au collège et au lycée, qui explique à quel point la rencontre avec tel enseignant a été déterminante. Donc c'est pas une belle histoire pour essayer de faire croire que dans les banlieues tout va bien. Pas du tout. C'est la réalité sociale. Mais quand on travaille sérieusement sur l'école, on sait que la réalité est extrêmement complexe. Il n'y a pas de caricature possible. Et l'historicisation qu'on peut faire, je vais vous donner un autre exemple pour revenir à l'histoire. Si jamais on dit, par exemple, le roman national s'est arrêté en 1968. Cette phrase-là est d'une imbécilité historique entière.
Oui.
Le roman national, d'abord, il faudrait voir comment il s'est joué dans les années 1920-1930, ce qu'explique très bien Olivier Loube, dans le désenchantement de la nation.
Il est déjà en critique.
Il est déjà en jeu sur le plutôt histoire locale, c'est pas la peine d'insister sur la guerre, les dates, pourquoi les dates.
Contrairement à une idée tenace, il n'est pas non plus d'emblée républicain, puisque au fond c'est Guizot, c'est Victor Duruy, entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, qui impose l'enseignement de l'histoire.
Oui, alors c'est vrai qu'il est républicanisé, là, la force. Le tour de force de Lavis, c'est de le républicaniser en même temps qu'il se républicanise lui-même. Mais il y a quelque chose, on voit très bien par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les textes de 45 sont magnifiques, les textes à la fois de l'inspecteur Ozouf ou alors de Lucien Febvre. Il y a un texte absolument admirable de Lucien Febvre en 47 où il explique « Arrêtons les dates, arrêtons les récits des batailles, ça n'a aucun intérêt, et la succession des rois, ce n'est pas ça l'histoire à l'heure où le monde devient uni, où on peut en 2 heures se retrouver au Maghreb, d'un coup d'avion. » Donc il y a vraiment une réflexion sur le monde qui s'ouvre. Donc cette idée d'un roman national qui s'arrêtera en 68, c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de mal aux études d'histoire.
Et qui nous pose aussi la question, je commençais par là l'émission, Benoît Falaise, il faudrait y venir à présent, de caractériser au fond cette passion française pour l'histoire. Est-ce qu'il y a une spécificité de nos disputes sur le rapport entre la nation et l'histoire? Alors on peut dire la République, sans doute, mais aujourd'hui, si on fait le bilan de la manière dont, au fond, partout autour de nous s'exacerbe cette question. Vous avez consacré un livre avec Charles Heimberg et Olivier Loub, justement, sur l'école et la nation, qui est paru en 2013 à l'ENS de Lyon, qui reposait sur une enquête qui a maintenant bientôt 10 ans. Les choses ont changé depuis, pas en bien. Si on regarde la Hongrie, si on regarde la Pologne, si on regarde la Turquie, les États-Unis, enfin un peu partout, où en est-on du point de vue de cette tentation politique de prendre pied dans le passé ?
Alors, juste une petite chose, Patrick Boucheron, sur la spécificité française, avant de vous répondre directement. Sur la spécificité française, c'est bien sûr les Français qui pensent que la passion française est bien française et qu'elle nous appartient et que d'une certaine manière, on peut même en être fier. Mais il faut voir que les étrangers en Europe considèrent la France et l'école historique française comme une spécificité dans le monde européen. Il y a quelque chose. Je parlais de la Hongrie tout à l'heure. Les historiens français ont toujours été accueillis dans les années 50, 60, 70, jusqu'à Roger Chartier, vraiment comme des maîtres à penser. Même si, évidemment, à l'intérieur de la Hongrie, il y avait des gens absolument admirables qui considéraient qu'ils étaient eux-mêmes des maîtres à penser. Mais il y a un rapport, un de mes collègues, très bon collègue de Budapest en ce moment, est en train de travailler sur une histoire des annales. Donc on voit que c'est quand même un sujet de préoccupation. En revanche, pour répondre directement à votre question, il y a cette passion de l'histoire et cette passion de ce qu'il faut transmettre aux enfants. Elle est partagée partout dans le monde. Il y a une tension même extrêmement forte, et surtout après la chute du communisme en Europe, dans énormément de pays, sur ce qu'il faut dire, avec une tension, vous savez, très très frappante. Qu'est-ce qu'on doit dire de la libération du nazisme, qui est une occupation pour beaucoup de pays? Et tous les débats intellectuels ont porté là-dessus dans les années 89, 90, 91, et continuent à porter là-dessus. On voit comment le primat de la nation est en train de s'exacerber, alors y compris pour des raisons d'instrumentalisation politique. Mais on voit comment, y compris comme en France, dans ces pays-là, l'histoire et la transmission de l'histoire est instrumentalisée. Je pourrais citer tout, on le voit bien aujourd'hui, on oui. Le voit avec l'Italie, on le voit avec la Hongrie, c'est particulièrement frappant, l'Ukraine, qui est un pays déchiré. Et je relisais récemment l'article d'une collègue qu'on avait publié dans École et la Nation sur la Moldavie, et on se rend bien compte entre la tendance russophone moldave et la tendance grande Roumanie du 19e siècle roumaine, il y a des enjeux, des conflits et des luttes de pouvoir au sein du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour imposer telle ou telle ligne de programme.
En Pologne, par exemple, notre collègue Paul Gradwoll nous alerte sur ce sujet-là. Une loi pénalise l'attribution à la nation ou à l'État polonais en dépit des faits de crimes contre l'humanité. Et donc on n'a peut-être jamais été aussi loin dans la volonté de réécrire l'histoire.
Je pense qu'on n'en est qu'au début, malheureusement. Je crois qu'on ne mesure pas assez les enjeux de 2019 et des élections européennes à venir. Nous sommes dans une sorte de confort français, avec nos débats politiques, nos invectives, nos alliances ici ou là, mais je crois qu'on ne mesure pas assez ce qui est en train de se jouer en Europe centrale.
Et les avec vieux... en particulier le rôle de Viktor Orban, qui dès 2012 déboulonnait les statues, et vous qui êtes un spécialiste aussi de la Hongrie, qui avez été en Croatie, à Budapest, est-ce que vous pensez pas qu'il y a là un modèle, comme au fond une contre-réforme du nationalisme ethnicisé, qui est le modèle fort aujourd'hui, pas seulement autoritaire, mais au fond séduisant en Europe?
Je connais d'autant mieux le cas hongrois que je suis de la génération de Viktor Orban et que j'ai eu la chance historique en 89, de vivre l'achèvement du régime du Parti Socialiste Hongrois, et que j'ai vu, de mes yeux vus, sur la place des héros, Ösök Tere, le Viktor Orban faire un discours absolument incroyable, mais qui était porteur d'espoir pour les Hongrois, pour la réhabilitation de Nagy Imre,
oui,
et de tous ceux qui avaient été les victimes de 56. Donc il y a eu un espoir démocratique qui lui a permis après d'asseoir son autorité politique, sauf que évidemment, la tentation qu'on appelle tentation populiste, que j'aimerais qu'on analyse peut-être plus finement pour l'Europe centrale, fait qu'aujourd'hui, il met en péril effectivement une partie des acquis, notamment des acquis des historiens. Il y a une maison de la terreur qui a été inaugurée sur l'avenue principale. C'était l'avenue de la République populaire à l'époque, et ça a récupéré son nom du 19e siècle. Maintenant, c'est Andrássy út. Le musée de la terreur est un exemple même de travail de l'histoire à des fins politiques. C'est-à-dire qu'on y voit toutes les périodes de terreur mises sur un plan d'égalité, avec éventuellement d'ailleurs une fascination pour le massacre des Juifs dans le Danube par les croix fléchées dans les années 43-44. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer, dont on ne mesure pas forcément, parce qu'on ne connaît pas forcément très bien ces pays, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer. J'ai la chance de pouvoir rester en relation avec beaucoup de collègues de différents pays et d'avoir des échos, là pour le coup, très alarmistes.
Et vous co-animez, Benoît Falaise, à Sciences Po Paris, un séminaire sur ces rapports entre l'école et la nation dans un cadre européen. Au fond, puisque vous dites que le constat est alarmiste, que faire ? D'abord observer, d'abord
faire
comparer,
le point.
Faire le point, le constat.
Oui, mesurer que même en Suède, les questions se posent aujourd'hui. Les questions de la transmission de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a transmis de l'histoire ? Voilà une vraie question. Qu'est-ce qu'on a transmis de l'histoire ? Puisque, bon, le cadre national s'est progressivement effacé pour un cadre plus européen. On a tenté, à un moment donné, Jacques Le Goff était très partant là-dessus. Il a même fait un livre sur
Faire l'Europe.
Et un livre, L'Europe pour les élèves, pour les jeunes enfants. Un ancien membre de l'inspection générale, Laurent Wirth, était très intéressé par ces questions-là. On a eu des intellectuels qui ont voulu travailler sur comment faire.
Vous y avez cru à la possibilité de construire un récit commun européen ?
L'idée de faire un récit, en tous les cas, de l'histoire européenne, ça pouvait être jouable. Mais un récit commun, évidemment, c'est une complexité sans nom. Je vous donne un exemple. On a été à un moment donné plusieurs à réfléchir, à entamer, y compris peut-être d'un point de vue éditorial, mais ça a échoué, les lieux de mémoire européens.
Oui.
Un peu dans la veine, évidemment, de Pierre Nora. Et on a fait le tour un peu d'Europe. Et chaque pays européen avait un lieu de mémoire, mais qui ne correspondait en rien à l'histoire des autres. Le seul lieu de mémoire qui s'imposait à tous, c'était Auschwitz. Auschwitz peut-il être le lieu de mémoire de rassemblement de la transmission de l'histoire à la jeunesse ? Alors, il faut que ça en soit, évidemment. Mais est-ce que c'est porteur d'espoir ? Il y a quelque chose là qui est un vrai paradoxe. Hein. On avait pensé au mur d'Adrien, à la Vierge de Czesorowa, Cordoue bien évidemment. Mais quand on parlait de Cordoue aux Polonais, ils n'en voulaient pas.
Donc, et le livre récent d'Étienne François, de Thomas Serrier et des autres, qui s'appelle Europa, commence aussi par ces blessures.
On a la chance de recevoir, dans la première séance du séminaire à Sciences Po, le 3 octobre, Jakob Fogel, qui vient...
qui était un des coordinateurs
de ce livre. Et j'entamerai, moi, le séminaire devant lui, en disant que, dans la partie récit de ce magnifique ouvrage polyphonique, il y a un manque. C'est dans la partie récit, c'est les récits par l'école, les récits du national par l'école ou les récits de l'Europe par l'école. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Bon, on connaît Anne-Marie Etiez qui aurait pu faire un magnifique article ou d'autres. Je crois qu'il y aurait matière à faire une deuxième édition et à insérer un article. Mais peut-être après la réalisation de ce séminaire, qui sera suivi d'ailleurs sans doute d'un colloque au mois de mai, donc en plein milieu des élections européennes.
Vous n'aimez pas du tout l'idée de décadence, Benoît Falaise. Tout conjure dans votre pratique et dans votre discours à s'opposer évidemment à l'idée que les choses se dégradent. Et pourtant, en Europe, comme c'est difficile de ne pas voir cela se dégrader.
J'ai confiance dans une jeunesse qui réclame la justice, et la justice sociale ou la justice historique. J'ai moins confiance dans une jeunesse qui, au nom de l'histoire sombre de l'Europe, est prête à y retourner. Et c'est vrai que là, je pourrais être amené à envisager la décadence comme un avenir possible.
Mais notre besoin d'histoire, c'est toujours quand même une confiance dans la jeunesse et la certitude que nous sommes redevables à cette jeunesse.
Oui, et en plus, à quoi ça sert d'enseigner l'histoire ? Vraiment, à rien. Enfin, si ce n'est rémunérer 10% du corps enseignant français. Mais si enseigner l'histoire, ça ne permet pas de prendre conscience du passé et de réfléchir à la possibilité d'éviter le pire, je crois que... Voilà, vous me posiez la question, Patrick Boucheron, au début d'émission, sur pourquoi je fais ça. Je crois que c'est ça, en fait. Vous voyez, il a fallu l'émission pour que je réalise pourquoi j'aime tant la transmission de l'histoire. C'est éviter le pire. Je crois qu'il y a cette tentation du pire qui est contenue dans tous les peuples. Et aucun régime démocratique ne peut dire aujourd'hui qu'il y est soustrait. Mais il faut pouvoir enseigner la jeunesse. Il faut pouvoir lui faire confiance. Il faut pouvoir la regarder convenablement et s'adresser à elle en disant... voilà ce qui s'est passé, et c'est toi, demain, qui prendras les choix. Il y a une question de responsabilité, il y a une question de citoyenneté, au fond, dans l'enseignement de l'histoire.
Et votre livre contribue à calmer le débat. Comment vous gardez votre calme, Benoît Falaise, dans ce climat?
Ça m'étonne
et ça m'émerveille.
Je vous remercie, mais ce n'est pas toujours simple. On a voulu rééquilibrer le débat sur l'école. On a voulu dire les réussites, on a voulu dire qu'il y avait de l'espoir, on a voulu dire que les jeunes, même des banlieues, peuvent avoir accès à la culture, au savoir, et qu'en plus ils la demandent. Alors c'est vrai que les débats sont un peu compliqués aujourd'hui, parce que on sent bien que il y a un regard qui est porté sur cette jeunesse, des milieux populaires, des grands centres urbains, qui est difficile, et il faut le battre. Mais je dois dire, parce que c'est un de mes héritages intellectuels, on a beaucoup parlé d'histoire, là, c'est que j'ai fait un détour par la sociologie, et que je suis aidé par le fait d'avoir eu la chance de croiser Abdelmalek Sayad, qui, grand ami de Bourdieu, grand sociologue, qui avait consacré tous ses travaux en partie à la jeunesse issue du Maghreb, en immigration, et aux travailleurs immigrés, bien évidemment, mais aussi à la jeunesse. Et il disait cette phrase que je trouve absolument magnifique et que j'ai tendance peut-être à trop dire en conférence publique, c'est la question de l'histoire n'est pas une question scientifique, historique,
mais encore c'est moins idéologique.
Mais c'est surtout un besoin éthique. Il y a un besoin moral de dire les choses. Comment dire la guerre d'Algérie sans dire les choses profondément, et pas sur la guerre d'Algérie en elle-même, mais sur la profondeur de l'histoire franco-algérienne. On peut pas faire la guerre d'Algérie sans parler de 1830, sans parler des années 1860, 1870, des révoltes réprimées. On ne peut pas dire l'arrivée des jeunes et des familles maghrébines, et notamment des travailleurs immigrés dans un premier temps dans les usines françaises, sans dire le racisme de la société française dans les usines, et y compris la solidarité, c'est-à-dire de cette complexité qui fait le monde. Et montrer ça à la jeunesse, c'est d'abord lui dévoiler le passé et lui faire comprendre pour certains pourquoi ils sont en France et pourquoi ils vivent sur ce territoire, mais aussi leur montrer qu'il y a eu des gestes admirables et des gestes absolument détestables et contraires à la démocratie que tout républicain devrait réprouver. Donc c'est ça, transmettre, en fait, je crois.
Et notre besoin d'histoire ne construit rien, au fond, ni la nation, ni la révolution, mais s'adresse à chacune et chacun d'entre nous.
Oui.
Pour éveiller des consciences individuelles.
Oui, penser qu'on transmet l'histoire dans un but politique de construire le citoyen, c'est une idée très Troisième République, hein, qui a eu son importance dans le cadre de l'émancipation de la République par rapport à la monarchie. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est peut-être un élément réflexif et moral pour chacun, mais adulte compris.
Merci Benoît Falaise.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Benoît Falaise, Philippe Mercher, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous parlerons encore de transmission, mais dans l'enseignement supérieur, avec Éléonore Sellard. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonne soirée.